Bonjour, vous êtes sur RDC, Radiodiffusion Charentaise. Vous êtes sur RDC avec Stéphane, RDC 93.4 et 92.5, ou bien sur le site www.radio-du6rdcfm.com. Il est l'heure de l'émission Donnez-nous vos notes. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Une note, donnez-nous vos notes. Des notes, des bonnes notes. Donnez-nous des bonnes notes, rien que des bonnes notes. Donnez-nous vos notes. Passeurs et passeuses de rêves, donnez-nous vos notes. Passeuses et passeurs d'émotions, donnez-nous vos notes. Musiciens, musiciennes, magiciens des sons, magiciennes des sons, magiciennes des mots, magiciens des mots, donnez-nous vos notes. Chanteurs ou chanteuses, instrumentistes, en solo comme en groupe, donnez-nous vos notes. Donnez-nous vos notes aujourd'hui sur les ondes de RDC, Radiodiffusion Charentaise, 93.4 et 92.5, sans oublier le site www.radio-du6rdcfm.com. Qui veut bien nous donner ses notes aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est Léna Thor, c'est elle qui a accepté de nous donner ses notes en ce jeudi 6 novembre 2025, grand jour, grande date s'il en est. Merci beaucoup Léna de votre présence. Auditrice, auditeur, bonjour. Je suis ravi de vous retrouver sur les ondes de RDC 93.4 et 92.5 pour l'émission Donnez-nous vos notes que j'ai l'honneur et le plaisir d'animer. Bonjour Jean-Marc, merci de ton aide technique au service de la meilleure écoute pour les auditeurs et aussi comme soutien à l'animateur que je suis. Bonjour Léna.
Bonjour Stéphane, merci de votre accueil.
Auditrice, auditeur, encore une fois, merci des témoignages que vous envoyez pour dire votre satisfaction à l'écoute des émissions de la série Donnez-nous vos notes. Je ne doute pas que vous apprécierez de recevoir les notes données aujourd'hui, le 6 novembre 2025, par Léna Thor, que dis-je donner, offerte par Léna Thor. Léna, c'est moi qui vous remercie beaucoup d'avoir répondu à cette invitation sur RDC. Et donc, auditrice, auditeur, Léna Thor va se prêter au jeu. Elle va nous dévoiler son parcours, son choix d'entrée dans l'univers de la musique, sa formation, ses rencontres avec d'autres, ses envies culturelles, artistiques, musicales. Le tout sera sans doute teinté de l'expression d'un partage musical et humain. Léna va nous dire comment elle vit avec la musique, mais aussi comment la musique opère sur elle, ne serait-ce qu'à travers l'influence qu'elle a sur sa personne, voire sur son entourage. Léna va nous guider vers sa compréhension de la musique, sans doute celle qui permet l'écoute de soi, l'écoute de l'autre, l'écoute des autres. Celle qui permet de faire de la musique avec et pour les autres. Vous le savez, auditrice, auditeur, je le rappelle quand même, Léna devait être avec nous au mois d'octobre, le 23 octobre dernier, mais Benjamin en a décidé autrement. Benjamin, c'était le jour de la tempête qui a empêché le déplacement de Léna. Gentiment, elle a dit qu'elle était d'accord pour revenir le 6 novembre. Et comme c'est le jour de mon anniversaire, elle me fait un magnifique cadeau. Alors merci beaucoup, Léna Thor. Est-ce que vous êtes prête, Léna?
Oui, tout
alors,
à fait.
Alors, Léna, donnez-nous vos notes. Donnez-nous vos notes, c'est sur RDC. Léna, une question pour commencer, comme ça, tout go. Qui êtes-vous?
Je suis Léna, je suis violoncelliste. Je viens de Barcelone et j'habite maintenant à Paris.
Barcelone, c'est en Catalogne, ça, c'est ça?
Et oui.
Seriez-vous originaire de Catalogne?
Oui.
Ah, on dit que vous êtes catalane, alors c'est ça?
C'est ça.
Vous êtes d'un pays qui s'appelle la Catalogne.
Et oui.
Barcelone étant la capitale?
On pourrait dire, oui, c'est ça.
Alors Barcelone, moi je connais parce que il y a un club de foot où il y a eu, un joueur de foot très célèbre qui a été entraîneur aussi. C'est pas un catalan, c'est Johan Cruyff, mais il était catalan d'adoption, on va dire. Il est beaucoup de cet endroit-là. Léna, comment vous êtes restée en Catalogne après, ou vous avez changé de pays, changé d'horizon, changé d'endroit?
Alors j'y ai vécu jusqu'à mes 22-23 ans.
C'était il y a 3-4 ans, quoi.
C'est ça, tout à fait. Et ensuite, j'ai continué mes études en Belgique, à Anvers, et ensuite à Paris, et puis je suis restée à Paris.
Et qu'est-ce qui fait que vous avez changé, sans, je ne veux pas être indiscret, hein, mais changé d'endroit pour passer de la Catalogne à Belgique, puis à la France?
Je cherchais des nouveaux profs, l'expérience.
Des profs, donc ça veut dire que vous faites de la musique alors?
Et oui.
Ah, et de quoi vous jouez?
Je joue du violoncelle.
Ah, le violoncelle, on va en parler sûrement dans tout le déroulement de cette émission, mais Comment la musique est-elle venue à vous? Comment un jour vous vous êtes dit, je vais jouer du violoncelle? Ou qu'est-ce qui vous a imposé le violoncelle? Ou est-ce que c'est vous qui l'avez choisi?
Non, alors, je suis arrivée à la musique par hasard. Ma mère m'inscrivait à plein d'activités. J'ai fait des échecs, j'ai fait du dessin, j'ai fait de la musique, du capoeira, j'ai fait plein de trucs. Et puis, la musique est restée. Et puis, j'ai choisi moi-même mon instrument. J'ai commencé la musique à 6 ans et on avait 2 ans d'éveil musical. Et à l'issue de cette deuxième année d'éveil, on nous présentait plusieurs instruments. Parce que normalement, après, à 8 ans, on démarrait un instrument. Et du coup, parmi tous les instruments qu'on a entendus, c'était presque tout l'orchestre, j'ai choisi le violoncelle.
Et vous savez pourquoi? C'est parce que vous avez vu, entendu, c'est quoi?
Oui, oui, je l'ai entendu. Apparemment, j'ai tout de suite penché vers les instruments à cordes frottées.
Mm-hmm. Et donc, apparemment... Ça, les cordes frottées, donc il y a le violoncelle, le violon...
Oui, c'est toute la famille de...
La lutto, la contrebasse...
C'est ça, ouais. Ces quatre-là. Enfin, il y aurait aussi la viole de gamme, mais bon, ça, on en parlera...
Voilà. L'orchestre symphonique, c'est ces quatre instruments qui sont restés, on va dire.
Et voilà, et je penchais vers les graves. Et puis,
Les graves, ça veut dire que les instruments violon, alto, violoncelle, contrebasse, ils ne sont pas tous à la même hauteur, c'est ça?
C'est ça. Plus ils sont petits, plus ils sont aigus.
Ouais. Et donc plus ils sont grands.
Plus sont graves. Donc plus grand que le violoncelle, on aurait encore la contrebasse, ouais. Qui me plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais quand même, je me suis arrêtée au violoncelle.
Qui est trop petite pour jouer de la contrebasse?
Ah non, non, mais...
C'est une plaisanterie. C'est une... Elle n'est pas bonne, mais je ne résiste pas à la faire. Alors bon, vous allez évidemment... Tout au long de cette émission de ce 6 novembre sur RDC 93.4 et 92.5, nous parler de votre parcours. Il faut bien commencer par quelque chose. Donc peut-être qu'on va commencer par quelque chose qui a expliqué, justifié votre choix. Vous avez entendu, c'est ça?
Oui.
Par quoi on commence? Qu'est-ce qu'on entend tout de suite? On entend quelque chose de Beethoven, je crois.
Oui.
C'est le 4e mouvement de la 9e symphonie. En tout cas, c'est un extrait, c'est une symphonie chorale. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est une symphonie chorale? Ça veut dire qu'à un moment, on va entendre des chants.
Oui, c'est ça. Il y a de l'orchestre et il y a un chœur, voilà.
Il y a 4 mouvements pour un grand orchestre, pour des solos et pour un chœur mixte, donc avec des voix de femmes et des voix d'hommes. Elle comprend une partie très connue qui s'appelle l'Ode à la joie ou l'Hymne à la joie. C'est un poème de Friedrich von Schiller avec un texte chanté par des solistes et par le chœur. C'est dans le dernier mouvement, c'est le 4e, qui dure environ 25 minutes, donc on ne va pas tout entendre. En tout cas, on va entendre un extrait de cette 9e symphonie, c'est le 4e mouvement, c'est Beethoven, et c'est le choix numéro 1 de Léna Thor dans Donnez-nous vos notes. Que c'est beau, merci de cette ouverture d'émission, Léna. On a eu le premier exemple, je vais dire, de l'utilisation d'un compositeur majeur, Beethoven, qui a utilisé pour la première fois la voix, je vais dire, dans une symphonie, au même titre que les instruments d'une symphonie, que les instruments d'un orchestre symphonique, oserais-je ajouter. Cette symphonie, c'est un hommage au roi Frédéric Guillaume III de Prusse, et Wagner, autre célèbre compositeur, ô combien célèbre, il a dit de cette symphonie qu'elle était la dernière des symphonies, comme s'il n'y avait plus possibilité après de faire une autre symphonie, tellement il la trouvait magnifique. Cette œuvre qu'on peut qualifier de monumentale, elle a marqué un tournant décisif dans ce style musical de la symphonie et de la symphonie chorale. Elle est considérée comme un chef-d'œuvre finalement du répertoire occidental et l'une des plus grandes œuvres musicales de tous les temps et au-delà du répertoire de l'Occident. Vous êtes d'accord avec ça?
Oui.
Ouais. Et grâce à ça, ou à cause de ça, vous êtes devenue la violoncelliste que vous êtes aujourd'hui, c'est ça?
Enfin, peut-être, c'est juste que je me souvenais du thème du coup connu de l'Ode à la joie, ouais, qui a été joué par le petit élève qui est venu nous montrer l'instrument.
Comme quoi, petite cause, grands effets,
oui.
Encore une fois.
Hein. Oui, voilà. Et donc, quelques années plus tard, c'était moi, à mon tour, qui jouais ce petit morceau.
La boucle est bouclée, vous l'avez joué pour d'autres. Qui sait si vous avez déclenché des envies chez des enfants qui voudraient écouter, de devenir musicien et peut-être violoncelliste aussi. En tout cas, j'en connais une, c'est ma petite fille qui vous écoute ce matin ou qui écoutera le podcast.
Ah,
c'est une future violoncelliste.
Bonjour à elle, alors.
C'est ce que je lui souhaite et sa sœur sera pianiste. Je lui souhaite aussi. On continue le voyage?
Très bien, allons-y.
Avec un mouvement d'un concerto de M. Haydn. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi ce morceau choisi aujourd'hui par vous, Léna?
Oh, je pense que c'est, si ce n'est pas mon préféré, c'est un des concertos préférés de violoncelle, de mes concertos préférés. Et je trouve que ce troisième mouvement a une pêche incroyable, un bonheur, une joie. Enfin, j'adore cette pièce.
La dynamique,
oui,
c'est
oui,
ça.
Oui, oui, oui.
Est-ce que c'est quelque chose que vous avez été obligé de jouer pour un concours d'accès?
Eh oui, en plus.
Aïe, aïe, aïe. Ça veut dire que vous avez donc passé des concours pour accéder à des écoles de musique ou à des conservatoires, c'est
ça? Oui, c'est ça. À chaque fois qu'on passe en cap, on va dire, donc à 12 ans pour l'école intermédiaire, on va dire le conservatoire intermédiaire, et puis ensuite pour l'équivalent.
Ça veut dire, pardon, qu'il y a plusieurs degrés, plusieurs grades de conservatoire, ou plusieurs classes, hein,
d'accord. C'est ça. Ouais. Et c'est un peu, chez nous, en tout cas en Catalogne, organisé un peu comme l'école, c'est-à-dire que jusqu'à 12 ans, on a la formation élémentaire, ensuite intermédiaire qui va jusqu'à 18 ans à peu près, et ensuite supérieure, ce qui serait l'équivalent d'un CNSM. Et à chaque nouvel établissement, on va dire, on passe un concours spécifique.
Et là, c'était pour accéder à quel
supérieure.
Niveau? Ah, donc c'était avant le plus haut niveau, c'est ça?
Oui, enfin c'est ça. Oui, ouais. Oui. Et c'est une pièce imposée. Souvent, les concertos classiques sont souvent des pièces imposées aussi dans le répertoire d'orchestre, dans les auditions, parce que c'est tellement... Voilà, on voit tous les détails.
C'est-à-dire, on voit tous les détails. Vous me parlez de l'instrumentiste que vous êtes et vous me dites, on voit les détails. Moi, j'aime beaucoup ce rapport entre écouter une instrumentiste ou un instrumentiste et voir. Je trouve que c'est très important, non?
Oui, oui, effectivement, on est quand même... Des animaux scéniques.
J'adore le terme.
Mais je veux dire, c'est vrai que le son est notre matière, mais il ne faut pas oublier qu'on est sur scène.
Mais pour fabriquer le son, il faut avoir une posture, une attitude, une dynamique, des gestes. Et donc ça se voit aussi un instrumentiste ou une instrumentiste.
Alors vous
parlez de la bonne humeur, vous parlez de l'énergie qui se dégage de cette pièce. On en écoute un extrait?
Ah oui.
Alors comment ça s'appelle déjà? C'est le concerto en do majeur de Haydn.
Troisième
et c'est un extrait du troisième mouvement. C'est maintenant. Haydn, il a composé plusieurs concertos pour violoncelle. Un concerto, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire quoi? Comment on pourrait expliquer ça? Avec des mots de tous les jours, pour moi, pour que je comprenne.
Ce serait une pièce qui met en valeur souvent un soliste, un instrument soliste. Enfin, au début, il n'y avait pas forcément un soliste, c'était juste du verbe concertar, enfin
concertare, parler ensemble,
voilà, se concerter,
communiquer.
Voilà. Et puis c'est devenu une forme musicale qui met un instrument soliste en valeur, accompagné par un orchestre ou un petit ensemble.
Alors Haydn, il a écrit plusieurs concertos, mais on n'est pas complètement sûr que tous ceux qui lui sont attribués soient de lui. Le doute subsiste. Le catalogue de son œuvre comprend 6 concertos pour violoncelle. Le dernier perdu est apocryphe, c'est-à-dire que son authenticité n'est pas avérée encore aujourd'hui. Les deux seuls concertos dont on est sûr qu'ils soient de Haydn, si on peut dire qu'on est sûr, c'est celui que vous avez choisi, celui en Do majeur et celui en Ré majeur. Le troisième concerto, lui, semble être un doublon du premier. C'est-à-dire, Haydn, il s'est dit, oh, j'ai écrit un chouette truc, je vais le reprendre, je vais le transformer un peu, et ça va être un autre concerto. C'est ça, c'est un peu de la flemme, non?
Bon, ça se faisait beaucoup à l'époque,
oui,
je pense,
sûr.
Non
on puisait dans ce qu'on avait déjà fait, oui. Pour l'étendre, pour le réécrire, pour l'aménager, quoi.
Et parfois même pas, on puisait dans ce que d'autres avaient fait, en sorte d'hommage, de reprise.
Il n'y avait pas la SACEM à l'époque. Et
non, c'était beaucoup plus souple.
En tout cas, le concerto que vous avez choisi ce matin, Léna, il a été écrit pour Joseph Weigel, c'était un violoncelliste, collègue de Haydn à la cour du prince Esterhazy. Et puis, la partition du concerto pour violoncelle numéro 1, je reprends son titre en entier, n'a pas été signée. Elle a été égarée jusqu'à sa redécouverte dans les années 60 dans des archives du Musée national de Prague. Donc vous voyez, la musique, ça voyageait quand même, ça restait pas. Quand on sait qu'à l'époque de Haydn, aller à Prague, ça devait être une aventure, et pourtant il n'hésitait pas pour l'art finalement et pour partager. La musique a été, et la partition a été authentifiée grâce à un catalogue rédigé par Haydn lui-même, un ouvrage qui comporte les thèmes initiaux de certaines de ses œuvres, dont ce concerto, une partie du concerto. L'effectif orchestral, ça demande des violons 1, des violons 2, des altos, une basse, c'est-à-dire des violoncelles et des contrebasses, des hautbois et des cors. Alors, violon 1, violon 2, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des violons qui sont meilleurs que d'autres?
Ah non, surtout pas. Non, c'est juste, c'est de la musique écrite à quatre voix, dont les deux aigus, voilà, c'est des violons. Et souvent, ce qu'on entend, c'est que les premiers violons font les thèmes, c'est-à-dire ce qu'on pourrait siffloter à la fin du concert. Et puis, les violons 2 et les altis, souvent, c'est quelque chose de remplissage harmonique, rythmique.
Remplissage, voilà. C'est pas péjoratif. Hein. C'est quelque
pas du
chose
tout,
de,
pas du
je
tout.
Me permets de préciser.
Ouais, ce serait très creux sans eux. Hein. C'est vraiment juste une mélodie et une basse, ça sonne très creux. On a vraiment besoin des violons 2 et des altis.
C'est pour enrichir, c'est pour développer, c'est pour augmenter.
Oui.
Encore plus beau, quoi. Ce qui fait que si je reprends le thème que tout le monde connaît, il y a plein de choses qui vont avec et qui vont autour et qui font que ça reste encore plus
au
premier plan.
C'est
vraiment mettre en valeur, c'est un échange, quoi. Et on a la même chose dans un concerto. Comment ça se fait que Haydn, il peut décider, ou d'autres, que pour telle œuvre écrite, il a besoin de violon, d'alto, de violoncelle, et pas de trompette, ou pas de saxophone, ou pas de... Vous savez comment il peut choisir le compositeur? Vous avez une idée là-dessus?
Alors je pense que ça s'est constitué un peu, il y a ce noyau, disons, de cordes autour du quatuor, et c'est un peu comme ça que l'orchestre moderne s'est constitué, c'est-à-dire qu'on part de ce noyau de cordes à quatre parties, donc deux violons, violon 1, violon 2, alti et basse. Et puis ensuite, au début, on rajoutait les vents pour venir colorer ça. Donc des hautbois qui font donc les parties du haut, les bassons après qui feront la basse, les cors, voilà, qui rajoutent une couleur très particulière. Mais au début, à l'orchestre classique, ce n'était que pour des petits ornements, on va dire, pour rajouter une patte. Mmh. Et puis petit à petit, ça s'est développé jusqu'à l'orchestre moderne. Voilà.
On est du quatuor à cordes au départ. Et en plus, Haydn, son surnom, c'est le père du quatuor. On tombe bien avec lui pour illustrer ce que vous venez de nous dire. Dans cette œuvre d'environ 20 minutes, on a écouté évidemment quelques moments, un moment important. Il y a trois mouvements en tout. Le dernier mouvement a une ardeur qui lui donne une allure de mouvement perpétuel, tiens, je vais dire, et qui n'est pas étrangère à la popularité de l'œuvre. On a l'impression que ça ne s'arrête jamais, et donc ça reste, et on en veut encore finalement. Mmh. Et c'est bien ce mouvement-là que vous avez joué pour entrer à l'école supérieure dont vous parliez tout à l'heure, c'est ça ?
Alors c'était le premier mouvement, parce que souvent c'est là qu'on nous demande les premiers mouvements, mais mon préféré c'est le troisième, voilà. Il est tout le concert est très beau, hein, faut le dire, mais voilà.
Et on a pour voir ses préférences. Oui. Vous aviez quel âge à ce moment-là?
18-19 ans.
Voilà, alors auditrice, auditeur, je crois que ce qui vient d'être dit, à 18-19 ans, être capable de jouer, alors quand je dis jouer, pour moi ça veut dire interpréter, c'est-à-dire pas, je vais prendre ce terme, pas réciter, pas annonner, hein, c'est jouer, interpréter, donner vie à de la musique. Et quand on est capable de faire ça à 18 ans et que vous avez été reçu au concours, je suppose, ça veut dire que ça décrit vraiment la qualité, auditrice, auditeur, de l'invité de ce jour dans Donnez-nous vos notes, et c'est Léna Lénator. Auditrice, auditeur, lorsque l'été dernier, je suis allé profiter d'un concert du Festival de Sainte, j'avoue honteusement que c'était la première fois que j'y allais, pardon, mais faut avouer à moitié pardonner, on va souvent écouter des choses très loin de chez soi et on oublie les choses dans la proximité. Et j'ai eu la chance d'entendre et de voir, et je dis bien entendre et voir, l'orchestre des Champs-Élysées donner la 4e symphonie de Beethoven sous la direction de Philippe Hervaeg. Alors moi j'ai une habitude, je ne sais pas si elle est bonne ou mauvaise, c'est que j'écoute les musiciens mais je les regarde aussi. Donc écouter l'ensemble de toutes mes oreilles, regardant l'orchestre de tous mes yeux, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer plusieurs instrumentistes, dont une violoncelliste. Et tout le monde aura sans doute compris que c'est cette violoncelliste qui est en face de moi ce matin. Et j'en suis vraiment ravi et fier. Merci encore Léna. Avec Stéphane sur RDC pour Donnez-nous vos notes. Un quatuor, on vient de parler du quatuor, et puis un quatuor sonate à Kreutzer. Donc là, il y a quatuor et sonate. On a parlé de concerto tout à l'heure. Sonate, qu'est-ce que ça veut dire? Ça sonne, ça va ensemble, c'est ça?
Oui.
Ouais, c'est plusieurs instruments qui sont là pour discuter autrement que dans un concerto.
En fait, je pense qu'au départ, ça vient en contraposition à chanter. Donc, suonare, c'était de jouer un instrument plutôt
chanter,
que de chanter.
Cantare.
Voilà.
Et puis, il y a toccata pour les instruments qui ont un toucher, comme la guitare, par
l'orgue,
exemple.
L'orgue, voilà.
Ouais, exactement. Oui. Et un clavier. C'est ça. Alors, on écoute quoi, là, dans la série des quatuors et dans la série des sonates? Qu'est-ce qu'on écoute? On écoute la sonate à Kreutzer, c'est ça?
C'est ça. Alors, c'est une reprise de Tolstoï, c'est-à-dire de l'œuvre de Tolstoï, Sonata Kreutzer, à laquelle Janáček a rendu hommage avec ce quatuor. Voilà,
donc c'est une rencontre entre plusieurs formes
et
d'art,
oui.
Finalement.
Oui, oui, oui. Hein,
qu'est-ce que c'est, à travers la Sonata Kreutzer, Tolstoï, qu'est-ce qu'il fait? Il présente une critique sociale et morale percutante de la société russe de son époque, et il remet en question les conventions sociales, il dénonce l'hypocrisie et l'oppression, il appelle à une réflexion sur les valeurs et les normes qui régissent la vie de tout un chacun, ici, là ou ailleurs. Et lors d'un voyage en train, le personnage principal de l'œuvre de Tolstoï, il se confie à un voyageur qu'il ne connaît pas, peut-être l'avez-vous fait tout à l'heure, en train, en dans de Paris. Hein, il raconte comment il a tué sa femme par jalousie après avoir découvert qu'elle entretenait une relation avec un violoniste, c'est pas un violoncelliste, on est tombé, lorsqu'ils jouaient ensemble la célèbre sonate à Kreutzer de Beethoven. Voilà. Le compositeur s'est déjà inspiré de cette nouvelle pour écrire un trio à cordes et puis une ébauche de quatuor, mais ces deux pièces, paraît-il, ont été perdues. Fort heureusement, le quatuor nous est parvenu. Il y a 4 mouvements et puis son exécution dure 15 minutes. C'est en fait la reprise de la chronologie de la nouvelle de Tolstoï jusqu'au meurtre final dans le dernier mouvement. Ah, ça finit mal, ça, c'est ça?
Oui, ça finit mal.
Allez, on écoute quand même. Allez, voilà un extrait du premier mouvement de la sonate à Kreutzer. Alors, vous aviez choisi, Léna, de nous faire entendre la version du quatuor Janáček, c'était quand même bien. Mais nous n'avons pas pu le diffuser, donc il a fallu trouver une autre interprétation.
Il n'y a pas de souci.
Vous nous excuserez, merci d'avance. C'est maintenant. Voilà, Voilà, donc on a le quatuor, hein, les quatre instruments qui sonnent ensemble, c'est la sonate. On peut avoir des sonates pour d'autres ensembles que qu'un quatuor. Une sonate pour, je sais pas, violoncelle et piano.
Ah oui, oui.
Ça existe.
Oui, oui, ça existe. Enfin voilà, comme on disait tout à l'heure, donc dès que c'est une pièce instrumentale, ça pourrait être une sonate. Après, il y a des formes, il y a des conventions qui se sont adoptées à 3-4 mouvements, voilà. Mais ça existe depuis, voilà.
Depuis la nuit des temps,
oui.
Ou presque. En tout cas, donc, en tant que violoncelliste, en Catalogne, dans votre pays de naissance, mais aussi en Belgique ou en France ou ailleurs, vous avez sûrement rencontré d'autres instrumentistes pour jouer des sonates, non, vous ?
Oui, 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 effectivement.
Et vous avez joué avec plusieurs instrumentistes ? Piano, je ne sais pas, dites-nous.
Oui, alors ça dépend. Donc j'avais choisi cette pièce justement parce que quand j'ai fait mes études à la SMUC, en Catalogne, à la SMUC, c'est l'école supérieure de musique de Catalogne.
ESMUC, c'est ça ?
C'est ça.
École supérieure de musique de
Catalogne.
Catalogne.
Voilà.
C'était à Barcelone.
C'est ça.
Et la Catalogne où vous êtes né.
C'est ça. Et donc là-bas, on avait la chance, le privilège d'avoir le quatuor Casals. Comme prof, chez moi, c'était aussi mon prof.
Alors, il faut le dire, hein, l'équateur Casal, ça fait partie des équateurs...
Voilà.
au monde, les plus célèbres.
Hein, c'est ça, c'est ça. Donc, ouais. Pendant 4 ans, on a profité de... Donc, j'étais dans un quatuor qu'on a gardé de manière à peu près stable pendant 4 ans.
Ah, c'est bien.
Voilà, et donc, on avait des cours avec eux. Et chez moi aussi, le violoncelliste était mon prof de violoncelle. Donc, voilà, c'était fantastique. Mais sinon, après... J'ai fait plusieurs duos violoncelle-piano en Belgique, voilà. Et puis sinon, on en parlera tout à l'heure, mais dans la musique baroque, il y a plein de sonates. Et donc là, on se fait accompagner par des clavecins, des théorbes, un autre violoncelle, voilà.
On reparlera de tous ces nouveaux instruments. Là, vous venez d'employer plein de mots que je n'ai pas compris, théorbes, musique baroque. On en reparle dans un instant. Le quatuor Casals, c'est un nom célèbre, ça. C'était quoi ? C'était un musicien ?
Et oui, c'est un grand violoncelliste du XXe siècle qui était catalan et qui
Pablo,
a quitté...
Pablo, je crois.
Pau Casals, oui, en catalan.
Comment vous dites, pardon ?
Pau.
Ah, Pau.
Oui, justement, il a été connu parce qu'il a quitté donc l'Espagne pendant la dictature franquiste. Il avait dit qu'il n'allait plus jamais rejouer en Catalogne tant qu'il y aurait Franco encore. Et il est célèbre pas seulement en tant que violoncelliste, il a aussi déniché les suites de Bach et les a remises un peu... Voilà, on les joue encore, voilà.
Il les a remises à l'affiche.
Oui, c'est ça. Et puis, c'est célèbre aussi son discours, je pense que c'était à l'ONU, je ne sais plus, mais voilà, un discours...
À l'ONU,
voilà. En faveur de la paix, voilà. Et c'est quelque chose de très touchant.
Souvent que les artistes ont des messages de paix à transmettre, hein,
oui.
Je crois. On peut penser à un autre violoncelliste qui a joué au moment de la chute de Berlin.
Oui, bien sûr.
Ouais. Allez, on écoute une autre musique, on parle de Boccherini.
Luigi
Boccherini. Alors, pourquoi cette musique choisie ce matin par vous, Léna ?
Et alors, on n'a pas encore évoqué le sujet, mais je me spécialise en musique ancienne, c'est-à-dire c'est une pratique qui vise à reconstituer un peu les instruments et les conditions de jeu et les techniques de jeu de la période de la pièce qu'on joue, c'est-à-dire qu'on pourrait faire de la musique ancienne avec une musique du XVIe siècle, mais potentiellement aussi du XIXe siècle, même du XXe, XXIe siècle, c'est-à-dire qu'on adapte nos instruments, notre façon de jouer.
Alors, ça c'est intéressant. Selon la musique, pardon je vous interromps, mais selon la musique que vous jouez, on peut avoir différentes façons de jouer ?
Absolument.
Alors expliquez-moi ça, parce que moi alors, je ne comprends pas comment on peut jouer de la violoncelle, par exemple, de différentes façons. Dites-moi tout.
Alors, les instruments ont une évolution, organologique, c'est-à-dire...
La fabrique d'un violoncelle aujourd'hui n'est pas la même que celle-là.
Exactement. On n'a pas les mêmes matériaux, ouais. Voilà. Donc, au début, par exemple, l'histoire de cet instrument remonte à la fin du XVIe siècle. Donc, bien sûr, on a des cordes, mais le nombre de cordes n'était pas défini. Il n'y avait pas que 4 cordes. On pouvait avoir 3 cordes, 5, 6 cordes. La taille n'était pas non plus définie. On ne parle pas de violoncelle, mais de basse de violon. C'est-à-dire que dans la famille des violons, celui qui tient la basse. c'est toute l'information qu'on a. Ça peut être un grand instrument, mais pas si grand que ça. Enfin, on ne sait pas. Et puis, l'instrument s'est standardisé au 19e siècle, mais les matériaux ont évolué. C'est-à-dire qu'au départ, on n'avait pas de cordes en métal, on avait des cordes en boyau, de tripes de mouton ou de bœuf. Voilà.
Pas forcément de chat, alors.
Non. Voilà, et puis... les archers étaient différents, la fabrication des archers a beaucoup évolué, ce qui a une conséquence sur le poids, l'articulation, la façon de le tenir, de jouer.
L'articulation, on articule quand on joue du violoncelle, ça veut dire quoi ça?
Ça veut dire, c'est un peu comme parler, il y a des syllabes qui sont plus fortes que d'autres, on parle pas pareil comme ça, donc on joue pas pareil.
Et puis la respiration,
c'est ça, reprises. Voilà. Donc c'est ça, la pique par exemple notamment, c'est
la pique, c'est ce qu'il pose par terre quand
c'est on... ça, c'est cette tige qu'on pose par terre. Ouais. Et alors au départ on utilisait ça juste pour les amateurs, pour des gens par exemple qui boitaient, des femmes, les quelques femmes qui jouaient du violoncelle, mais c'était pas quelque chose de standard. Et ça s'est imposé petit à petit vers le milieu du 19e siècle, en fonction de l'évolution du répertoire et des nécessités, des besoins techniques de l'instrument. Voilà.
Ah, je crois que vous parlez de musique en recherche de manière de jouer ou d'écrire de l'époque. La musique historiquement informée, c'est comme ça qu'on dit?
C'est ça.
On pourrait dire documentée?
Oui.
On cherche
oui.
une documentation,
oui,
oui.
C'est ça? C'est ça.
Et
c'est...
alors vous dites que ça peut être une nouvelle manière d'aborder la musique. Qu'est-ce que ça a de nouveau par rapport à l'apprentissage du violoncelle alors?
Alors, il faudrait... Alors, dès qu'on prend les instruments, les outils de l'époque, on voit que ça permet, ça facilite ou ça complique certaines choses. Et à niveau technique, à niveau expressif, musical. Donc, d'une part, c'est d'apprivoiser ses moyens. Mais après, il y a aussi une conscience de ce qui est un peu la pensée de l'époque, la pensée musicale de l'époque, c'est-à-dire que dans le passé, il y avait un rapport beaucoup moins strict à la partition. On se permettait de s'affranchir énormément de la partition, c'était vraiment, même pas un trompe-l'œil, c'était comme un petit pense-bête.
Et au cas où.
C'est ça, on improvisait beaucoup, on changeait beaucoup, voilà. Donc il y a tout ça qui entre en jeu.
Et on le retrouve à travers des œuvres de Boccherini, mais peut-être que maintenant, je ne sais pas, vous allez me dire, l'œuvre de Boccherini, on la joue par rapport à une partition, ou on a des libertés en jouant?
Alors, je pense qu'on pourrait avoir plus de liberté, mais plus de
la
liberté...
La revendication arrive, je le sens.
Mais c'est vrai que... Alors, apprendre à improviser, c'est une pratique qu'on a perdue. Hein. Donc, il faut beaucoup de temps, beaucoup de pratique. Et notre temps, vous le savez, il n'y a pas... C'est tout ce qui nous manque. Voilà.
Alors, Boccherini, c'est un musicien essentiellement connu pour sa musique de chambre, c'est-à-dire avec un effectif réduit, hein, et notamment ses quintettes. On parlait de quatuor tout à l'heure. La quintette, c'est donc cinq instruments. C'est-à-dire qu'on rajoute un instrument. Qu'est-ce qu'on rajoute?
Il y a plusieurs possibilités. Il a fait des pièces pour quintette avec deux violoncelles, quintette avec deux altos, ou quintette avec une contrebasse en plus du quatuor. Voilà.
Et donc, il est surtout connu pour ses œuvres instrumentales. Son œuvre vocale reste moins jouée, en tout cas aujourd'hui. Mm-hmm. À l'époque, on n'a pas d'enregistrement, je crois. Et il était pourtant marié à une cantatrice, comme quoi... Il a écrit quelques pièces religieuses, parmi lesquelles une messe, deux motets et deux oratorios. Son œuvre comporte aussi un nombre d'arias de concert, c'est-à-dire des airs extraits d'ensembles plus conséquents ou qui sont en valeur lors d'un concert de plusieurs instruments. Et puis son Stabat Mater est une commande passée pour un office par son employeur. Et son employeur, c'était l'infant Don Luis. Je l'ai bien dit là?
Très bien.
C'était le fils du roi d'Espagne de l'époque, hein, c'est ça? Et le texte repose sur un écrit du XIIIe siècle attribué à Jacopone da Todi. Il s'agit d'une méditation sur la souffrance de Marie lors de la crucifixion, d'où le titre Stabat Mater. D'accord? La première version repose sur une voix de soprano qui se mêle au quintet à cordes formé de deux violons, d'un alto et deux violoncelles. Donc c'est une des compositions que vous citiez tout à l'heure.
Alors dans ce cas, c'est avec une contrebasse.
Et il y a une contrebasse aussi.
Pas deux violoncelles.
Ok. Le tout forme un sextuor, je parle du Stabat Mater, hein, un ensemble de six instruments, si l'on considère la voix comme un instrument, et ça c'est aussi quelque chose d'assez inattendu, surtout pour l'époque. L'œuvre comprend 11 parties, elle dure environ 3 quarts d'heure, et le musicien reprend la partition près de 20 ans plus tard. Il ajoute une ouverture et des voix. La partie d'orchestre, elle, il ne la retouche pas. Finalement, c'est assez fréquent que les musiciens reprennent leur œuvre dans l'instant ou plusieurs années plus tard. Et les instrumentistes, lorsqu'ils rejouent quelque chose, est-ce toujours la même manière ? Est-ce que,
ou oui, pas ? Malheureusement, je trouve qu'on reste assez figé. Ouais. Et on pourrait se permettre varier.
Pourtant, quand on
plus.
Écoute, je reprends l'Orchestre des Champs-Élysées, mais la quatrième de Beethoven par l'Orchestre des Champs-Élysées est forcément différente que de la quatrième de Beethoven par l'Orchestre Poitou-Charentes. Je dis n'importe quoi, là, c'est ce qui me paraît pas. Mais qu'est-ce qui... Peut-être qu'il y a le choix du chef d'orchestre, peut-être qu'il y a la réaction des instrumentistes. C'est jamais vraiment la même chose, quand même, on n'est pas des robots, si.
Alors non, c'est jamais la même chose. Après, il faut distinguer entre le jeu en solo ou en petite effective et puis ouais. Le jeu d'orchestre qui est quand même déjà à l'époque beaucoup plus
carré
ouais. Voilà, parce que c'est figé. Concerté, ouais. Ouais. Il faut concerter tout l'orchestre.
Alors, Donc, on écoute un extrait du Stabat Mater de Boccherini, c'est « Tu nati », ça veut dire quoi ça ? Tu es né ?
C'est oui, ça. C'est ça.
C'est maintenant ?
Oui.
Allez, « Tu nati », vas-y Jean-Marie. Tout à l'heure, Léna, vous avez parlé de musique baroque. Peut-être que c'est maintenant qu'on va préciser la redite, ce que ça veut dire, qu'est-ce que c'est la musique baroque à travers une ouverture d'un ballet royal qu'on appelle le ballet royal de la nuit. Qu'est-ce que c'est la musique baroque ? C'est une époque ?
Oui, le baroque c'est une époque, mais non, on l'utilise aussi un peu comme générique pour parler de musique ancienne, qui en fait, c'est une manière de dire... cette pratique historiquement informée.
C'est Louis XIV en France ?
Non, c'est bien avant.
Ah, ça, avant.
En fait, ça commence du moment où on essaye de reconstituer une pratique du passé. Mm-hmm. Voilà, ça pourrait être 1500 quelques, enfin voilà, jusqu'à hier, potentiellement.
À ce moment-là.
Voilà,
ah,
potentiellement. Ce moment-là. Après, c'est vrai qu'il y a un usage du langage qui... Voilà.
Alors le ballet royal de la nuit, c'est le titre de ce que nous allons entendre, enfin un extrait, hein, c'est aussi appelé le ballet de la nuit, c'est un ballet de cour d'Isaac de Benserade avec une musique de Jean-Baptiste Lully, c'est ça ?
C'est ça.
Et puis il n'était pas tout seul à avoir fait la musique parce qu'il y avait aussi Jean de Campfort, Michel Lambert. Ils se mettent à plusieurs, c'est fréquent, plusieurs musiciens travaillent ensemble.
Oui, surtout pour des grandes pièces, ça je ne sais pas. Mais oui, pour des grandes pièces comme ça, oui, ça arrive.
Un collectif de compositeurs, ça se refait, ça se fait même encore aujourd'hui, notamment avec les courants très très modernes, le rap, le slam, il y a des rassemblements d'artistes et d'interprètes. Donc il arrive que les musiciens puissent s'entendre alors, les compositeurs,
oui.
Les instrumentistes aussi, dans un orchestre, c'est la bonne entente ?
Oui, souvent. Enfin,
souvent.
Voilà.
J'aime beaucoup le souvent.
Bah, ça dépend, mais oui.
L'Orchestre des Champs-Élysées, vous jouez souvent avec cet orchestre-là ?
Depuis un petit moment, j'assure des remplacements. Donc, ils sont très fidèles à ces musiciens. Enfin, l'orchestre est très fidèle à ces musiciens, ce qui donne justement cette patte... qu'on aime beaucoup chez eux. Donc, j'ai la chance d'être appelée quand il y a des remplacements à faire.
Des remplacements, alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'il y a des musiciens qui ne peuvent pas être là pour une raison ou une autre.
C'est ça.
Et il faut les remplacer quand même, parce que l'effectif de ce qu'on a à jouer demande, j'ai n'importe quoi, 4 violoncelles ou 3.
C'est ça.
D'accord. Et donc, vous jouez dans d'autres orchestres, je suppose, dans d'autres ensembles?
Oui.
Lesquels, par exemple?
Je joue dans les épopées, par exemple, qui font surtout du 17e français, avec Stéphane Fugier à la direction. Voilà, sinon je fais des projets avec la danse.
On retombe dans les rencontres entre plusieurs formes d'art, et je trouve ça très intéressant. Justement, avec la danse, là, on a un ballet.
Oui,
justement. C'est un ballet qui reproduit la course de la nuit et tout ce qui peut se passer pendant la nuit. 45 entrées, 4 grandes parties. On découvre la nuit à la campagne et puis les divertissements nocturnes, on n'ira pas plus, y compris amoureux. La lune qui descend du ciel, la cérémonie païenne de Sabbat, oh là là. Et puis c'est le moment du lever du soleil. Et le soleil, devinez qui c'est? Ben, c'est le roi, c'est Louis XIV. Et il paraît sur scène, parce que c'était assez fréquent, je crois, qu'il se mette en scène, soit comme musicien, mais comme acteur
danseur,
ou danseur surtout.
Oui. Ouais.
Il danse avec d'autres seigneurs qui représentent les génies ou les vertus qui accompagnent le lever du soleil en lui rendant hommage, donc hommage au roi en fait. Hein. Et il démontre ainsi sa puissance dans le ballet, puisque tout le monde lui rend hommage à lui qui personnifie le soleil. Le ballet s'inspire d'un divertissement florentin, donc de Florence en Italie, appelé Le Notte d'Amore. Et il a toutefois une forte résonance politique quand même, parce que à cette époque, en France, la Fronde lutte contre le roi et elle vient d'être vaincue. La couronne cherche à rétablir et à affirmer son autorité. Donc le ballet de la nuit est à percevoir comme un symbole fort de la victoire du soleil sur les ténèbres. C'est renforcé par le fait que parmi les personnages figurent de nombreux grands seigneurs issus des familles qui ont pris part à la révolte, à la Fronde. Et ce sont eux qui rendent hommage au roi soleil, au roi. Non mais, c'est maintenant. Presque. Il y a des percussions qu'on entend qui sont très présentes. Je crois que ça aide, en tout cas dans moi, dans mon esprit, à voir le défilé des personnages sur la scène. Les percussions rythmant leur cadence, leur déplacement finalement. Léna, savez-vous que sur RDC, dans l'émission Donnez-nous vos notes, aujourd'hui, comme d'habitude, on joue. Il y a un jeu, figurez-vous. Mais ouais, qui est-ce qui joue? Toutes les auditrices et tous les auditeurs, enfin celles et ceux qui voudront, bien sûr. Qu'est-ce qu'on gagne? Un CD ou un DVD et une invitation à venir assister à une prochaine diffusion en direct de l'émission Donnez-nous vos notes sur RDC depuis les studios à Angoulême, la station qui émet sur 93.4 et 92.5. Comment on gagne? Eh bien, on gagne en répondant à la question que je vais poser tout à l'heure. Et pour ça, il faut répondre au téléphone en composant le numéro du standard. Jean-Marc vous attend, auditrice, auditeur, pour donner la réponse. Attention, seule la première ou le premier d'entre vous qui aura trouvé la bonne réponse aura gagné le DVD et l'invitation à assister à une future émission. La question, la voici, mais avant, je donne le numéro. Il faut faire le 05 45 95 09 87. Je le répète, 05 45 95 09 87. La question, la voici. Léna Thor est notre invitée ce matin. De quel pays est-elle originaire? Où est-ce qu'elle est née? Je crois qu'on l'a dit beaucoup de fois depuis le début. Attention, Lena Caramba, vous n'avez pas le droit d'aider. Chut, je répète la question. De quel pays Lena est-elle originaire? Je crois que c'est au-delà des Pyrénées, hein, mais j'en dirai pas plus. Et il faut faire le 05 45 95 09 87. Auditrice, auditeur, précipitez-vous. Vous avez quelques minutes pour tenter de gagner. Seule la première ou le premier entre vous qui donne la bonne réponse a gagné. Lena, on revient à la sonate, d'accord?
Et
on parle de Francisco Maria Veracini. C'est bien dit là?
Oh, ouais, c'est ça.
Ouais. Et alors il a écrit une sonate pour violon en la mineur. Ça s'appelle sonate pour violon, mais on va entendre que du violon? Non.
Non.
Qu'est-ce qu'on va entendre aussi?
On va entendre aussi l'accompagnement du violoncelle.
Aha.
Voilà, et ça c'est intéressant parce que on croit que le violoncelle fait simplement la basse. Mais en fait,
c'est le grand qui accompagne là-bas dans le fond.
C'est
quoi.
Ça. Mais en fait, parmi toutes les pratiques qu'on essaye de récupérer dans la musique du passé, on croit que les violoncellistes accompagnés avaient un rôle aussi harmonique, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas qu'une seule note, mais qu'ils faisaient des accords aussi.
Comme on peut faire des accords au violoncelle.
On peut faire des accords au violoncelle, pas comme un piano ou un clavecin.
Mais on peut jouer deux notes ensemble, par exemple.
C'est ça, deux, trois, voire quatre parfois, voilà.
Donc c'est l'archer qui permet la tenue de l'archer et l'attaque des cordes.
D'en faire plusieurs en même temps, parfois de manière plaquée, comme un accord, mais aussi parfois de manière arpégée, c'est-à-dire qu'on entend certaines notes après les autres. Mm-hmm. Voilà, et donc cette pratique-là, on l'écrit pas, on écrit juste une ligne de basse, et puis le violoncelliste à l'époque aurait su, on croit, interpréter ça en rajoutant le reste de notes de l'harmonie. Donc c'est une pratique qu'on essaie de récupérer. Il y a notamment donc Valentin Bajou qui enseigne au Conservatoire de Bruxelles, avec lequel je me suis formée, et avec lequel s'est formée aussi la violoncelliste qui joue sur cet enregistrement, Hilary Metzger. J'en profite, elle est prof à Poitiers, voilà, donc elle est de la région.
Voilà. Et dites-lui, s'il vous plaît, quand vous la croiserez, qu'elle sera l'invitée, si possible, d'une future émission.
Hein. Ah oui.
Vous lui direz que c'était une belle émission, j'espère, pour l'inciter à venir. Alors vous me parlez de Belgique à nouveau et de Valentin Bajou, c'est ça?
C'est ça.
Et ça veut dire que les musiciens sont des grands voyageurs alors?
Ça aide, si on aime voyager, c'est vrai que ça aide parce qu'on a l'occasion de beaucoup le faire.
Et puis de trouver des endroits pour jouer, ou d'autres orchestres peut-être, des ensembles, etc.
Oui.
Aller faire de la musique avec les autres et voir comment ils font, est-ce qu'on peut échanger des choses, est-ce qu'on peut s'enrichir mutuellement, c'est aussi ça la musique, c'est la
rencontre.
C'est ça. Que dire de Francesco Maria Veracini, que c'est un compositeur et violoniste italien. Il est surtout connu pour des recueils de sonates pour violon. On a pu entendre dire que son style individuel n'avait pas de précédent dans la musique baroque et qu'il annonçait clairement la fin de toute une époque et donc le début d'une autre. On a même affirmé qu'il avait sauvé la musique en péril du XVIIIe siècle. Cela suffit, je pense, pour témoigner de l'importance de cet artiste. Alors on écoute un extrait de son œuvre, la sonate pour violon en la mineur. C'est joué comme ça. Justement, c'est la technique dont vous parliez qui donne cette impression-là. C'est le violoncelle qui joue, peut-être le violon aussi d'ailleurs, de plusieurs notes à la fois.
C'est ça.
On parle d'un autre ensemble, les sonadori. C'est ça? Qu'est-ce que ça veut dire, les sonadori? Les sonneurs?
Oui, c'est ça.
Ouais. Allez, qui c'est ça? Qui c'est cet ensemble?
Alors, c'est un ensemble de cordes, parce que du coup, on parlait tout à l'heure du quatuor, mais la tradition d'instruments qui jouent par famille date de la Renaissance. Donc on a des familles d'instruments à cordes, donc la famille des violons. où on trouve des petits violons jusqu'à de très grands violons, donc les basses de violon, avant qu'on appelle ça violoncelle. C'est juste normalement à 4, 5, voire 6 voix.
C'est la bande de violon, quoi.
C'est ça, une bande de violon. Voilà, donc ça faisait partie de la musique de la Renaissance, que ce soit la musique populaire aussi et savante. Voilà, on a ça aussi chez les vents, donc vous connaissez tous peut-être la famille des flûtes à bec, on n'a pas qu'une seule flûte à bec, on le joue par consorte, on a ça dans...
Ah, consorte, ça veut dire ensemble. Hein,
c'est ça, exactement, mais aussi les anges, donc les instruments à anges double renaissance, les chalumies, les bombardes, après il y a, Lucien, toutes sortes, voilà.
Je pense qu'une prochaine émission, dans quelques temps, ça sera l'histoire de la musique. Avec Léna Thor qui nous préparera de tout ça. Je prends date et je prends note, hein, attention.
Ah oui, c'est dangereux ça.
On parle de palestrina maintenant, c'est ça?
C'est ça.
Pulchra es amica mea. Qu'est-ce que ça veut dire ça?
C'est un chant à la Vierge, voilà.
C'est un compositeur qui a écrit en tout, paraît-il, près de 650 œuvres. Ah, excusez du peu. Je vais en citer... quelques-unes, deux messes, la messe du pape Marcel et la messe de l'homme armé, à cinq voix, deux motets, Stabat Mater pour huit voix, et Lamentation de Jérémie, ô combien célèbre. Un film a été fait sur la vie de ce compositeur, à l'évidence majeur de l'histoire de la musique, et puis il a voyagé lui aussi, hein, entre son pays à lui, puis il s'est rapproché d'une cathédrale, la cathédrale Saint-Agapite, à Palestrina. Palestrina, c'est pas son nom, c'est le nom de sa ville,
de sa
en
ville.
Fait.
Hein, ouais.
Giovanni Perluigi, c'est ainsi qu'on le nomme aussi. Il a été d'abord enfant de chœur dans cette cathédrale, et puis il a été nommé organiste et maître de chapelle, toujours dans la même cathédrale. L'ancien évêque de Palestrina, le canal Del Monte, il est devenu pape sous le nom de Jules III. Il a appelé Palestrina, son copain, il lui a dit « Viens donc travailler avec moi à la chapelle Giulia de Saint-Pierre de Rome. » Et puis Jules fut remplacé par Marcel II. Marcel II est un pape qui ne régna que 21 jours. Mais il a beaucoup agi pour l'évolution de la musique et la musique sacrée. Et puis le pauvre Palestrina, il a été congédié. Vous savez pourquoi il a été remercié? Parce qu'il n'était pas célibataire et parce qu'il avait écrit des œuvres profanes. Mais un autre pape, Pie V, l'a rappelé. Pour moi, ça pose la question de la liberté de l'artiste, du compositeur et du musicien. Léna, est-ce que vous voudriez aujourd'hui qu'un artiste, un musicien, violoncelliste ou autre, il est libre ou pas? Dans son art, hein, je veux dire, je ne parle pas de sa vie personnelle.
Oh, quelle question compliquée.
Vous avez deux heures.
Eh oui, je dirais qu'il faudrait l'être. Je pense qu'il faut l'être, qu'il faudrait pouvoir s'affranchir de conventions, des a priori, de voilà.
Éviter la routine.
Oui, absolument. Et éviter aussi l'absence de positionnement. C'est-à-dire que pour moi, l'art n'est pas forcément quelque chose de conventionnel, ou qui suit les règles ou ce qui est politiquement correct de l'époque. C'est quelque chose qui est au-delà de ça, mais c'est personnel.
Alors, vous avez entendu cet ensemble à Saintes, je crois, vous aussi, la première fois,
oui.
À l'abbaye aux Dames, dont je parlais tout à l'heure. Et c'est avec ça que vous avez fait la connaissance des bandes de violon. On écoute maintenant? Alors, c'est Pulchra es amica mea, et c'est par...
Les Suonadori.
Qu'est-ce qui a écrit ça? Palestrina, c'est ça?
C'est ça.
Allez, c'est parti, c'est maintenant. Thank you. encore d'instruments. C'est beau, vraiment vos choix musicaux. C'est une belle illustration de votre parcours, mais je trouve que c'est une belle illustration de la musique et de son évolution tout court. Donc merci encore. Si je vous dis Ostella Matutina, qu'est-ce que vous me répondez?
Qu'est-ce que c'est? Bon, c'est l'étoile du matin. Mais bon, j'ai choisi cette pièce, vous voyez, enfin, quand on fait des études de violoncelle, en gros, on commence par Bach et jusqu'à présent. Mais dans mon parcours, du coup, en musique ancienne, je suis allée chercher plus loin. Et donc, il faut élargir un peu sa compréhension de ce que c'est qu'un violoncelle. Et c'est pas...
Ne jamais dire qu'on a fini, on n'a jamais fini d'apprendre, c'est ça?
Non, c'est ça, c'est ça, voilà. Donc là, dans la bande de violon, on ne parle pas proprement de violoncelle. C'est un violoncelle, dans cet ensemble, justement, il y a un violoncelle un peu plus petit que ce qu'on connaît, souvent accordé une carte par-dessus.
Et plus aigu, ça veut dire.
C'est hein, ça. Ouais. Et puis un violoncelle plus grand que ce qu'on connaît, accordé soit un ton, soit une quinte en sous. Enfin, je veux dire, ça, on parle de basse de violon plutôt que de violoncelle. Et donc, voilà.
Il y a parfois des surprises comme ça qu'on a en étudiant. Moi, il y a quelques années déjà, j'ai découvert le violon ténor. C'est-à-dire que c'est un violon qui a des cordes de violoncelle, finalement. C'est plus facile à transporter, sûrement.
Ah.
Mais c'est aussi, ça sonne très différemment.
Oui.
Bien sûr. Et puis il y a un instrument qui m'intéresse, c'est je crois qu'on dit le lyrone.
Oui, c'est ça. Oh, c'est un très bel instrument, très rare, et qui a eu une vie assez courte. Et ça vient de la famille de viol d'archer, lira d'arco, lira da gamba, en Italie.
Oui,
oui.
Gamba,
il faut penser à la lyre un peu d'Orphée, à cordes pulsées.
Comme la harpe, finalement.
Voilà, et puis donc il y a les lyres qui sont jouées à l'archet, donc à cordes frottées. Et donc lyrone, c'est pour dire que c'est grand. Voilà, donc c'est une grande lyre. Et donc c'est un instrument qui peut avoir entre 13 et 15 cordes, qui se jouait surtout en Italie pour accompagner le chant et la poésie. Il y avait des femmes qui en jouaient. Et puis, Monteverdi s'en sert beaucoup. Et c'est un instrument assez fascinant, assez magique, je trouve. Pas très pratique, si j'ose dire, parce que du coup, c'est un instrument qui ne peut jamais jouer qu'une seule corde, parce que son chevalet est plat. Donc, on fait toujours des accords. Et donc, il faut toujours un instrument qui fait le dessus, un instrument qui fait la basse. Et j'ai choisi cet extrait pour vous le montrer.
Alors, on l'écoute?
Allez.
C'est maintenant. Allez, on change encore d'univers, Léna, vous nous apportez maintenant vers les rivages de la musique traditionnelle.
Oui.
Maria del Mar Bonet.
C'est
quelqu'un
ça.
Quelqu'un que vous appréciez particulièrement.
Et oui,
c'est une chanteuse, c'est une instrumentiste.
C'est une chanteuse des îles de Majorque, en fait, et qui a commencé sa carrière dans les années 60, à la fin de la dictature de Franco. C'est le renouvellement de la chanson catalane, donc elle a fait beaucoup de musique traditionnelle, elle a une
et
voix extraordinaire.
Quelqu'un qui est du même pays que vous, la Catalogne, finalement. Elle a suivi des études de céramiste, paraît-il.
Tiens, voilà, je ne savais pas.
Elle a commencé à chanter ensuite avec un groupe, elle a enregistré avec son groupe beaucoup de musique folk.
C'est ça.
En catalan, et malgré les interdictions par la dictature franquiste de l'époque. En tout cas, je note que, comme vous, elle a su profiter de Barcelone pour son développement artistique et musical. Barcelone, c'est une ville qui est connue comme berceau d'artistes, et il y en a beaucoup qui sont là-bas.
Je trouve, oui.
Elles sont ces chansons, cette Maria del Mar Bonet, mais aussi certaines d'autres auteurs, dont Ira et George Gershwin, et Mikis Theodorakis. Mais en tout cas, vous allez nous faire écouter, Léna, une chanson qui s'appelle Jota Marinera.
C'est ça.
Ce qui veut dire... Le Jota, c'est une danse de la côte.
C'est oui. Maintenant.
Et c'est par Maria del Bonnet. Non, Maria del Mar Bonnet.
C'est ouais. Ça.
Léna, j'ai pas le sentiment qu'on entende de violoncelle là.
Il n'y a qu'est-ce pas de violoncelle.
Qu'est-ce qu'on entend? On entend la guitare?
Oui, je ne connais pas le nom de cet instrument. Enfin, un peu...
Famille de la guitare, on va
c'est
dire.
Ça, oui.
Puis,
oui.
Il y a une flûte aussi. Quelque
oui,
chose
il y a une flûte, il y a de la percussion.
Ouais.
Oui, oui.
Alors bon, c'est une chanson qui parle de la côte, hein, de la mer. Qu'est-ce que c'est? C'est l'éternelle histoire de la belle qui regarde la mer parce qu'elle espère que son compagnon, son amoureux, reviendra malgré les difficultés qui peuvent être liées au vent. Et là, on parle des 8 vents du monde. Les bétiaux ponants, Mistral, le grec, la tramontane, enfin bon, des vents qui peuvent faire advenir quelques difficultés, sinon pire. Et en général, dans cette chanson, on a le beau temps qui arrive toujours parce qu'après la pluie vient le beau temps, évidemment. L'âge d'Ota, qu'est-ce que c'est? C'est une danse?
C'est une danse, c'est un genre musical, voilà. Et moi, je vais choisir cette pièce parce que ce lien avec la musique traditionnelle m'intéresse tout spécialement parce qu'il y a beaucoup de musique que maintenant on joue comme savante dans la musique ancienne, qui en fait, c'est de la musique traditionnelle à une époque. Et voilà, donc voilà.
C'est l'histoire hein, qui est réécrit ou qui écrit ou qui réécrit l'histoire de la musique, tout est lié. Et puis il y a ce qu'on pense, il y a ce qu'on dit, puis il y a ce qu'on redécouvre, notamment en faisant des recherches dans le cadre de la musique documentée ou informée, comme vous disiez tout à l'heure. On reste dans le monde de la musique traditionnelle avec une chanson dont le titre est San Juanero, je l'ai bien dit là.
C'est ça.
Wow, qu'est-ce que ça veut dire? C'est Saint-Jean?
Oui, c'est ça.
Et je voudrais livrer quelques commentaires d'auditeurs à l'écoute de cette musique. Il y en a un qui dit « Cette musique illumine ma vie et me fait danser ». Vous êtes d'accord?
Ça me fait danser.
Toutes les chansons traditionnelles ont un charme fou.
Oui, ça je suis d'accord.
J'adore la diversité des chansons colombiennes. Tiens, on irait un peu en Colombie avec cette... Vous
et
me direz
oui.
Pourquoi tout à l'heure. Vive la Colombie et son magnifique folklore.
Oui.
En écoutant cette musique, je me sens un peu colombien, moi ou colombienne, vous êtes d'accord?
Ah oui, complètement.
C'est une source de fierté et de culture.
Oui. Oui.
San Juanero, pardon, est l'une des meilleures chansons de Colombie.
Ça, je ne sais pas, il y a tellement.
La chanson parle du meilleur de la Colombie. Et puis des bars, surtout du lorico, c'est-à-dire c'est l'eau de vie colombienne, ça.
Oui, c'est vrai.
Et Léna, je vous invite à découvrir l'eau de vie de chez nous, de Charente. Hein,
je connais.
L'eau de vie locale et bien sûr à consommer avec modération, vous connaissez déjà.
Oh, bah, oui.
Je vous invite à y revenir dès que vous pourrez. Donc on écoute quoi? On écoute San... Comment ça s'appelle? San Juanero, merci de me le redire. C'est une chanson, alors j'essaie de le dire, de Garçon y Colasos.
Oui, à peu près.
Ah, merci. Comment ça se dit, allez-y.
Garçon y Colasos.
Ah, super. Il s'agit d'un duo colombien formé de deux instrumentistes, distingués par de nombreuses chansons. Et puis il y a une anecdote que je veux livrer, c'est qu'il y a une coquille acoustique qui a été inaugurée dans le parc du Centenaire à Ibagué, en Colombie, en l'honneur du duo, pour que la musique qu'ils allaient produire puisse être mieux entendue des auditeurs. Et puis cette coquille a été transposée et construite ici ou là et ailleurs. Pourquoi vous nous parlez de la musique de Colombie, Léna?
Bon, alors là,
allez,
la petite histoire du cœur,
oui.
C'est que mon compagnon est colombien. Et du coup, il m'a fait découvrir déjà ce beau pays que je connaissais déjà un tout petit peu. J'y étais déjà allée avant de le rencontrer. Mais puis surtout, la musique colombienne. Mon compagnon, c'est quand même quelqu'un qui tient beaucoup à la musique folklorique, pas que de son pays d'ailleurs. Et donc voilà, on s'est rencontrés, et aussi c'était une rencontre musicale très intéressante, et voilà.
Et au-delà, et plus.
Et au-delà,
et plus, oui. Y affinité.
Bien sûr.
En tout
voilà.
cas, les murs, merci de nous faire voyager au-delà de l'Atlantique. Et puis un petit bonjour à votre compagnon, comment on dit, Julien ?
Julien.
Oui. Dites-lui s'il vous plaît, je serais ravi, enchanté de le recevoir.
Ah, il aurait plein de choses à vous dire. Hein.
Mais écoutez, date est prise, hein, donc on a une violoncelliste, celle de Poitiers. Un musicien, de quoi il joue ?
Il joue à la base de la flûte à bec, mais il fait aussi des instruments à anges double renaissance.
Alors c'est parfait, voyons un magnifique sujet pour une future émission.
Et oui.
Maintenant vous connaissez les horaires du train pour venir en ville, vous n'aurez qu'à lui transmettre,
ah, je
pour
lui
revenir
dirai.
Avec lui.
Qui soyez
en
sûr.
En tout cas on écoute maintenant cette musique, San Juanero.
C'est ça.
C'est maintenant. C'est presque maintenant.
Y aquí me siento a cantar en esta piedra caliente, a ver si la dueña de casa se porta con aguardiente.
¡San Pedro!
En mi tierra todo es gloria cuando se canta el coropo, cuando se canta el coropo. Si es que se va a bailar el mundo parece poco. Y vamos cantando, y vamos bailando, y vamos tocando caramba que me vuelvo loco. En mi tierra todo es gloria cuando se canta el coropo, cuando se canta el coropo. Si es que se va a bailar el mundo parece poco. Y vamos cantando, y vamos bailando, y vamos tocando caramba, que me vuelvo loco. Sírvame un trago de a cinco, sírvame otro de a cincuenta y cinco.
Alors je veux dire, Julián, si vous nous écoutez, j'en doute pas, ou peut-être que vous pourrez réécouter le podcast plus tard, c'était pour vous, quoi. Et je vais vous faire une confidence, à vous comme aux auditrices et aux auditeurs. J'ai eu en face de moi une violoncelliste, une Léna, qui n'était plus du tout violoncelliste, mais qui était chanteuse et danseuse pendant les quelques minutes, les quelques instants que nous avons entendu cette magnifique chanson.
Mais c'est marrant parce que justement, voilà, une musique qui est pourtant, si vous voulez, très éloignée de moi, deux fois quand j'écris de la musique, parce que ça m'arrive d'écrire de la musique. Et...
Elle est compositrice aussi.
Bah non, je dirais, j'irai pas jusque-là, mais c'est vrai que ça sort avec des rythmes colombiens parfois. Donc, comme quoi, voilà, on peut
vous êtes aussi un peu de
par,
Colombie, hein, quelque part.
Ah, lui, là, quand même, c'est un peu la maison.
Ah bon, il n'y a pas de fâcheux, il n'y a pas de fâcheux dans votre métier. Ah, les fâcheux, pourtant, c'est une comédie-ballet de Molière et Beauchamp, c'est ça ?
C'est ça. C'est,
vous allez nous faire choisir un extrait pour nous faire entendre maintenant, mais pourquoi vous avez choisi ça ?
Ah, parce que c'était une très belle rencontre, c'était un projet, vous connaissez le Château de Grignan ?
Moi, oui.
Et le Festival des Nuits d'été, ça se tient tous les étés, voilà. Mmh. Et donc là, pendant 3 mois, on a joué devant la façade du beau Château de Grignan. Et Les Fâcheux, cette comédie ballet. Et donc, pour moi, c'était une découverte parce que c'était un projet pluridisciplinaire. Donc, c'est une comédie ballet.
On revient à la rencontre et à l'échange
voilà.
entre les personnes et les arts.
C'est ça. Donc, il y avait la musique, il y avait le théâtre, évidemment, et puis il y avait la danse. Ouais. Et puis, c'était un tout petit effectif. On n'était que 3 musiciens, mais on était sur scène. Alors que souvent, on est en fosse, on ne participe pas. Alors là, non, on participait. J'ai découvert que j'adorais ça. Et puis les gens, la production, l'équipe était fantastique. Je rêve de retravailler avec eux.
L'appel est lancé. L'appel est lancé. La pièce, elle est précédée d'un prologue écrit par Paul Pélisson, chef de cabinet de Fouquet. Fouquet qui était le propriétaire d'un château ô combien célèbre. Et ce prologue rendait hommage au roi, le roi de l'époque. C'était Louis XIV, encore une fois. Le prologue, il est suivi par un intermède dansé, une naïade qui sort des eaux. Et puis, il y a une musique de qui ? De Beauchamp. Et puis, l'air de la courante, il est signé de Jean-Baptiste Lully, le compositeur préféré de Louis XIV. Il y a une anecdote que je trouve un peu marrante, c'est que le roi de l'époque, il a lu le manuscrit de la pièce, et il a vu que le titre, c'était « Les Fâcheux ». Et il a dit à Molière, « Dites-les, Molière, dis-moi mon gars, dans Les Fâcheux, t'en as oublié un ?» T'as oublié le chasseur. C'est quelqu'un qui était inspiré d'un personnage qui existait à l'époque, Monsieur de Joyeucourt, qui était grand veneur, était connu pour ses récits de chasse à Saumon. Alors, Molière, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rajouté, évidemment, cet épisode. Ça inaugurera une recette, peut-être, du succès de Molière, c'est-à-dire impliquer le roi dans le processus de création, ou du moins lui en donner l'impression, et surtout attirer son attention. C'est un peu rusé ce qu'il a fait là, le Molière. Hein. C'est toujours bon pour un artiste ou un comédien d'avoir un protecteur, un mécène. Mais si en plus c'est le roi, alors on sait qu'on n'aura aucun fâcheux, évidemment. Les fâcheux, c'est maintenant. Vous m'avez dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas que le violoncelle dans la vie, finalement. Vous avez parlé des instruments de la musique traditionnelle, la guitare ou la famille des guitares, la flûte. Il y a un autre instrument qui vous intéresse aussi, c'est la basse.
C'est la basse, oui.
Alors pourquoi ça?
Je ne sais pas.
La basse électrique.
Dire, hein. Oui, je ne sais pas. J'ai eu ce... Ça m'attire depuis que je suis adolescente. Ah. Et ça a toujours été la basse, pas la guitare, pas la batterie, la basse. Et puis, donc, quand j'ai fini mes études de violoncelle, je me suis mise à la basse.
Et vous savez pourquoi ou pas?
Je soupçonne qu'il y a quelque chose avec le grave, encore une fois.
Ça parle aux tripes.
Et oui. Et puis il y a ce rôle de tenir la rythmique, qui m'attire.
Est-ce qu'avec la guitare basse, on peut improviser?
Ah oui, tout à fait. Ce ne seront pas c'est pas le même type de solo qu'on entend à la guitare, évidemment, parce que du coup, il faut beaucoup moins de son autour, voilà, mais il faut laisser la place à la basse de parler, c'est un instrument grave. Et souvent, vous allez voir qu'il y a beaucoup de bassistes plus solistes qui, du coup, ont des basses à 5-6 cordes pour pouvoir remonter dans les aigus.
Ah, et plus on ajoute deux cordes, s'ils sont aigus, plus on peut aller dans l'aigu, c'est ça?
Oui, c'est ça, et du coup, c'est plus facile à entendre. C'est clair que quand on a des graves très... Enfin, c'est moins... Ça parle beaucoup, mais voilà, c'est moins sonore, on va dire.
L'oreille humaine a plus de mal parfois à entendre le trop grave ou le trop aigu, hein, faut pas non plus exagérer. On va entendre Mamba Leando, c'est ça?
C'est ça.
Vous nous en parlez de ces Willy Gonzalez?
Alors Willy Gonzalez, c'est un super bassiste qui joue sur une basse à 6 cordes. Il est argentin et il a un jeu tout particulier et il mêle beaucoup des rythmes argentins traditionnels, la chacarera par exemple, dans son jeu. Et c'est passionnant ce qu'il fait. Voilà. Donc, je voulais vous partager ça.
Et quand il avait 15 ans, il a joué dans un orchestre. Est-ce que vous savez de quel instrument il jouait? Il jouait du trombone.
Je ne savais pas.
Alors, ensuite, avec un collègue, il a fondé un autre orchestre. Ils étaient tous les deux les chanteurs. Ouais, hein. Et puis, il a commencé une carrière de soliste accompagné par l'Orchestra Noche Sensual. C'est bon ça, dans la prononciation, je veux dire, dans la ligne sensuelle qui prédominait à l'époque, il fallait faire rêver à plein de choses. Son premier disque s'est écoulé à environ 100 000 exemplaires pour l'époque, bravo. Et son premier album fut disque de platine. Il a tourné dans divers pays d'Amérique du Sud, puis du Nord, également en Europe. Sa popularité est très grande dans son pays et bien au-delà. La qualité de sa voix et de ses interprétations parle au plus grand nombre. Et c'est pour ça peut-être que vous l'avez choisi ce matin. On écoute Mamba Leando, Willy Gonzalez.
C'est ça.
C'est maintenant. Dans ce qu'on vient d'entendre, Léna, vous confirmez que c'est un seul instrument aussi.
C'est ça, il n'y a qu'une basse là.
Il n'y a qu'une basse. Vous faites la même chose ?
Oh, pas encore.
Pas encore, mais vous êtes en route. Donc la prochaine fois, on sera obligé d'avoir à côté de vous la basse et que vous prendrez pour nous jouer un extrait, celui-ci ou un autre.
Ouh.
Est-ce que la basse, elle a un son bestial ? Elle peut avoir un son bestial des
bien
fois ?
Sûr.
Ah,
bien
je crois
sûr.
Que ça tombe bien parce que le morceau suivant, c'est Sonido Bestial.
C'est ça.
Et alors ça veut dire son bestial ?
C'est ça.
Comment ça se fait que vous choisissez dans une émission sérieuse comme la nôtre un son bestial ?
Ah oui, bon, on a tous des nuances, mais en l'occurrence c'était parce que on a beaucoup parlé de, du coup de musique qui se croise, de genres qui, voilà, donc de choses peu cloisonnées. Et donc là c'est une salsa, vous allez entendre, mais vous allez voir, j'y arriverai peut-être, enfin vous y arriverez peut-être pas parce que c'est à la fin du morceau.
Et on écoute des extraits forcément.
Voilà, mais il y a le solo de piano. Et là, il y a des emprunts de Chopin, de Rachmaninov, peut-être dans un autre des morceaux, il y a carrément du bar. Mmh. Et donc voilà, on retrouve dans une musique populaire, c'est-à-dire répandue au plus grand nombre, des influences classiques.
Et
voilà.
C'est aussi peut-être les moyens de faire passer la musique classique.
Ah oui.
Auprès de tout un chacun. Ça
oui,
compte,
oui.
Hein, il y a beaucoup d'instrumentistes qui font ça. Et on entend des fois une musique, en France en tout cas, où on dit, tiens, ça c'est la musique de la pub pour et en fait c'est soit la musique directe dite de la musique du répertoire classique, soit quelque chose qui s'inspire de ce répertoire-là. Ricardo Rey, il a été membre de l'Orchestre Symphonique de Boston, c'est Sonido Bestial qu'il a écrit, que nous allons entendre, et il passe pour être le meilleur pianiste et arrangeur de salsa de son époque. On l'a surnommé, excusez du peu, le Stravinsky de la salsa. Il mêle des références, des citations, vous le disiez, de plusieurs compositeurs, et on va entendre du Chopin dans ce morceau, on peut, du Chopin, du Rachmaninov, du Bach. Là, on a encore des emprunts, des transmissions, finalement. Et que disent les auditeurs de cette chanson ? Ben, y en a un qui a carrément dit que... Il est difficile de croire que seulement 9 personnes jouent dans ce qu'on va entendre maintenant. Et qu'ils aient pu former un groupe aussi formidable, c'est-à-dire que quand on les voit, quand on les entend, on sait qu'ils jouent ensemble. Et je crois que ça, c'est un mot fort de jouer ensemble et non pas les uns à côté des autres, quelle que soit la formation instrumentale ou chorale, par exemple. Cette chanson est un bijou, a dit un autre. Vous êtes d'accord ? À la sortie de l'album, Richie Bay et Bobby Cruz étaient très en avance sur leur temps et notamment dans leur style de salsa. Alors on va écouter maintenant.
Allez.
Une salsa ?
Oui.
On danse ?
Ah oui.
Allez. Auditrice, auditeur, vous n'avez pas pu le voir, mais je peux vous dire que Léna était debout sur la table du studio pour danser une salsa endiablée. Sonido Bestial, le son bestial. Léna, la prochaine fois, venez avec Julian, vous nous ferez une démonstration de salsa et on l'enregistrera.
Ah, Julian, il danse très très bien.
Ah, ben voilà, et il l'enregistrera pour la proposer sur le site du RDC, pourquoi pas. C'est le moment de se tourner vers Jean-Marc pour savoir si nous avons un gagnant ou une gagnante. Je crois que oui. Et c'est donc... je vais demander à Léna de travailler. Le prénom du gagnant ou de la gagnante, c'est...
Alors, félicitations à Marie.
Marie, elle habite où ?
Elle habite Angoulême, donc voilà.
Et qu'est-ce qu'elle a gagné ? Elle a gagné un CD ou un DVD, une invitation à venir assister à la diffusion en direct d'une prochaine émission de Donne une Nouvelle Note sur RDC 93.4, 92.5. La question, c'était de quel pays d'Europe est originaire Léna Thor, invité de Donne une Nouvelle Note ce matin du jeudi 6 novembre. Et je vais demander à Léna de donner la réponse.
Alors, moi, je viens de Catalogne.
Ah, donc c'est Barcelone, une des grandes villes.
C'est ça.
Ça donne sur la Méditerranée, ça, non ?
Ah oui.
Ah. la personne la mieux placée pour donner la réponse, ben forcément, c'était vous. Et puis vous nous avez dit aussi que le prénom, c'était Marie, je crois.
C'est ça, Marie.
Alors bravo à Marie, merci d'avoir joué, merci à toutes celles et à tous ceux qui ont joué également. Allez, on revient à la musique traditionnelle, mais on change de région.
C'est ça.
On va aller vers les pays de l'Est, je crois.
C'est
de l'Est
tout à
de l'Europe.
Fait.
Avec Noni Cacello. Oh, cello, c'est un violoncelle.
Oui.
Mais cette fois, je ne l'écris pas vraiment pareil. Et pourquoi vous avez choisi cette musique-là?
Parce que j'ai repris cette idée de la bande de violon, donc qu'on a écouté tout à l'heure dans un ensemble, une version savante. Mm-hmm. Mais puisqu'on parlait des croisements, des liens, tout ça, donc là, c'est une tradition qui s'est maintenue dans la musique traditionnelle populaire des Balkans. Et voilà, donc si on cherche à s'inspirer pour interpréter la musique du passé, historiquement informée, on pourrait peut-être aller voir leur pratique. Et c'est pour ça donc je vous ai mis un petit extrait d'une bande de violon.
Mmh. On peut, je crois, parler de, là aussi de différentes manières de jouer, parce que selon les époques, c'est différent, mais selon les endroits aussi.
Aussi.
On tient son violon d'une manière ou d'une autre, on le tient
oui.
à manière guitare, le violoncelle, il a avec pic, sans pic peut-être.
C'est ça.
Il y a plein de... Les archers sont différents. Et puis là, on entre dans le domaine qui, moi, me semble très important, c'est le collectage. Aller chercher des musiques pour ne pas qu'elles meurent, finalement,
oui.
pour ne pas qu'on les oublie. Et ça me fait penser à Yves Pacher et à Paul Grolier, qui sont deux musiciens de la région Poitou-Charente et qui se sont livrés à l'exercice à plusieurs reprises. En Saintonge, on a eu aussi des enregistrements de deux bardes célèbres. Je pense à Goulbonnège, je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui quand vous étiez à Sainte, ou à Odette Commandon. Ce sont deux chanteurs et raconteurs d'histoire en parler saintongeais, donc c'est une forme de collectage pour que, je vais dire, la musique de la langue, l'accent saintongeais, que j'ai un petit peu, je l'avoue, puisse perdurer avec les manières de parler, mais aussi avec certains mots, certaines formules. Et on va écouter maintenant donc la musique qui vient de l'Est, c'est Noni Cacello, et c'est une bande de violon aussi. Hein,
là, il y a trois instrumentistes,
trois instrumentistes qui se rencontrent, qui parlent peut-être, qui chantent, sait-on jamais, parce qu'on peut improviser aussi sur de la musique traditionnelle. C'est maintenant. Voilà, ils sont en train de parler de ce qu'ils viennent de jouer et de ce qu'ils vont jouer après. Alors j'avoue que je ne comprends pas ce qu'ils disent, mais c'est important d'expliquer le pourquoi du comment. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est de ressentir cette envie de bouger qu'on a en entendant ça. Même si c'est très différent de la salsa ou de la musique de la Colombie qu'on a entendu tout à l'heure, mais quand même cette réponse corporelle, c'est quoi qui fait ça? C'est le rythme, c'est la manière de jouer, c'est le tempo? Qu'est-ce que c'est pour vous?
Oui, je pense qu'il y a une question de tempo, de rythme. Après, la façon de jouer, je trouve que c'est important de repérer qu'il n'y a pas qu'un seul type de son. On perd de la diversité, je trouve, parce que l'enregistrement aussi, c'est merveilleux, mais ça nous conditionne un peu à chercher toujours ce qu'on a entendu.
À
reproduire. Mais voilà, le son des instruments peut changer, voilà, ouais. a beaucoup changé. D'ailleurs.
Et c'est important aussi d'aller chercher encore autre chose.
Oui.
Et la rencontre, et c'est avec ça qu'on développe la musique, qu'on développe ce qu'on se développe tout court, n'est-ce pas? Aller voir toujours ailleurs et pourquoi. Donnez-nous vos notes, c'est sur RRRDDDCCCC. Sur RDC avec Léna Thor pour ce matin du 6 novembre 2025. Léna, on est presque à la fin de l'émission et le 15e extrait, c'est le dernier que vous avez choisi. C'est une promenade à cheval.
C'est ça.
Dans laquelle vous nous entraînez, parce que c'est le ballet à cheval pardon, pour le grand carrousel. C'est un bonus, finalement,
c'est que un vous bonus. Nous offrez. Oui, c'est ça.
Et pourquoi vous avez proposé ce bonus?
C'est une musique qui m'impressionne. Vous allez l'entendre, c'est une grande bande de hautbois, donc à 12 parties. C'est de la musique d'apparat. C'est une musique... alors, mon instrument ne fait rien là-dedans, mais ça m'impressionne quand même. Et puis, j'ai aussi une petite facette d'ingé son.
Ingé son, qu'est-ce que ça veut dire ça?
Ingénieur
du son, je crois.
Ingénieur du son, voilà. Donc, le son, la matière sonore, ça m'intéresse. Mm-hmm. Et donc, c'est une manière que je me suis trouvée de participer à ce type de projet. Donc, en ce moment, j'enregistre pas mal ce type d'instruments. Donc c'est une autre manière de...
C'est un travail de collectage aussi.
Oui.
On y faisait allusion tout à l'heure.
Alors ça, c'est un disque qui est fait.
Oui.
Voilà, et moi, j'avais juste participé en faisant une petite vidéo de promotion.
Oui.
Voilà, parce que c'est des gens que je connais et que j'admire et je respecte.
Je
voilà.
reconnais ici l'humilité et la modestie de Lénator.
Non, mais voilà, mais...
Juste un petit peu, tu parles.
Mais ça m'a... Voilà, ça m'interpelle, c'est impressionnant. Ce sont des instruments impressionnants que je ne connaissais pas et qui, en bande, ont un effet extraordinaire, je trouve.
Ouais, alors le terme carousel, ça trouve son étymologie dans la contraction entre deux mots latins, carus et soli, ça veut dire char du soleil. Et c'est à l'occasion d'un carousel que Louis XIV, encore lui, a pris comme emblème le soleil et comme devise nec pluribus impar, c'est-à-dire à nul autre pareil, qu'on peut aussi comprendre avec nul au-dessus de moi. Je suis le roi. Non, mais...
Voilà.
Une autre étymologie existe, hein, Alphonse V d'Aragon, introduisit à Naples, dont il fut roi, le, alors pardon pour la prononciation, Yugos de Canas. C'est une joute d'origine ibérique dans laquelle les cavaliers étaient divisés en équipes et se battaient avec des lances émoussées. Les équipes se poursuivaient en lançant des roseaux avec des pointes collantes qui se fichaient sur l'armure adverse ou en lançant de petites boules d'argile. Ces petites boules d'argile étaient appelées alcancias en Espagne et elles furent nommées Caroselli, à Naples, en référence à ce mot d'un dialecte local utilisé pour désigner des tirelires rondes en terre cuite. Et la Yugo de Canas d'Espagne fut ainsi nommée Carosello à Naples, et le nom a été ensuite attribué à d'autres types de tournois pour se transformer en carousel quand le tournoi était à cheval. Le carousel que nous écoutons, c'est le ballet à cheval pour le grand carousel. C'est maintenant ? Quelque part, c'est un lien avec les tournois, avec les lices, avec les chevaliers. Bref, on écoute. Alors les carousels, dans l'histoire de France, ils ont remplacé les tournois qui ont été interdits en France depuis la mort tragique d'Henri II au cours d'une joute contre le comte Montgomery. Ah, c'est terrible. Chaque carousel réunit ou réunissait les meilleurs cavaliers du royaume sur les chevaux les plus réputés, les plus beaux, des écuries royales et princières, le tout pour une vocation allégorique de la majesté du roi combattant de ses chevaliers, sous la forme d'une fête équestre, certes, mais aussi pyrotechnique. C'est-à-dire qu'on peut imaginer ça avec des feux d'artifice qui partent dans tous les sens, le son, la couleur, la musique, tout ça rassemblé. Il y a un carrousel célèbre, c'est le carrousel royal de 1662 qui sert de référence dans la cour du palais des Tuileries. Et là encore, on avait les frondeurs qui étaient représentés comme ceux qui avaient complètement perdu et qui étaient soumis au roi, bien sûr. Alors, Léna, pour vous, les choix, les 15 choix s'arrêtent là. Seulement, vous êtes à Angoulême. Et Angoulême, c'est en Charente. Et vous savez qu'en Charente, le numéro du département, c'est le 16. Donc, il me fallait trouver, évidemment, un 16e extrait. Alors, je vous dis rien.
Ok.
On va juste écouter, et puis on écoute quelques notes, et puis vous nous en parlerez de ce qu'on va entendre maintenant. Attention, c'est la surprise, c'est pour Léna dans ce 6 novembre, c'est le jour de mon anniversaire, et c'est moi qui lui fais un cadeau, enfin j'espère qu'elle le prendra comme ça.
Pâtisserie empoisonnée, les beignets mortels, macarons foudroyants, tarte au venin de vipère, clafoutis au curare. Oh, je sais, le pudding à l'arsenic.
De poivron gras.
Non.
Ah, bon.
Émiettez votre arsenic dans un verre de narcotique, de cuillère de purgatif. On fait bouillir à feu vif.
Oh, je vais en mettre trois.
Dans un petit plat à part, qui est dur du sang de lézard, la valeur d'un dé à coudre.
Et un peu de sucre en poudre.
Non.
Ah, oh bon.
Alors, auditrice auditeur, je vais vous décrire ce qui vient de se passer. Quand j'ai dit à Léna qu'il y avait une surprise pour elle, j'ai vu comme un point d'interrogation au-dessus de sa tête. Et si c'est un Angoulême avec ce point d'interrogation, c'est peut-être pas un hasard, parce qu'on aurait pu le mettre sur une planche de bande dessinée dans la ville de la bande dessinée, n'est-ce pas?
Oui.
Alors, il y avait un... Puis il y a eu un petit plissement de son front, et puis ensuite, ça a été le grand sourire. Donc, j'ai été soulagé, j'ai dit, ouf, oh, elle le prend bien, c'est chouette. Léna, qu'est-ce que c'est qu'on va entendre là?
Alors, c'est la reprise de Magoyon qu'ils ont fait de Pudding à l'arsenic.
Magoyon, c'est un groupe?
C'est un groupe de métal, pas que métal, français.
La preuve.
Voilà. Et c'est des bons copains.
Et vous jouez avec eux?
Alors, il y a un vrai bassiste qui joue chez eux.
Enfin, voilà. Moi, je ne suis pas une vraie bassiste, nous dit Léna, laissez-moi rire.
Non, mais je veux dire un bassiste officiel qui est aussi celui qui fait pas mal des arrangements, qui les prend en son, voilà, compositeur, un super musicien que je connais par le milieu baroque, en fait. Et donc,
Comme quoi, il n'y a pas forcément de frontières.
Et voilà, tout à fait, on en revient. Et quand ils font des versions un peu acoustiques comme celle-ci, où le bassiste se met à jouer du piano, que vous avez entendu là, et qui fait aussi la trompette. Après, il y a un solo de trompette.
Je crois qu'il dirige aussi quelque part.
Et oui, Poséidon, voilà, tout à fait.
Ensemble Poséidon, c'est ça. Salut. Et dans lequel vous jouez aussi.
C'est ça.
Ah là là.
Donc, pendant le Covid, ou à la fin du Covid, je crois que c'était, ils ont fait cette reprise, enfin, ils ont repris 4 ou 5 morceaux en version acoustique. Et donc, on m'a invité à jouer la basse, puisque le bassiste tenait le piano dans cette version acoustique.
C'était Astérix et Cléopâtre.
C'est ça.
Hein, le BD, non pas la BD, enfin la BD oui, mais surtout le dessin animé très célèbre. C'était en 1968, et c'était il y a tout juste aujourd'hui 10 ans, quoi. Pour moi en tout cas, en 68, j'avais 10 ans. J'ai 10 ans, je sais que c'est pas vrai, mais j'ai 10 ans. Bon, allez, quelques mots d'auditeurs qui ont écouté ce que nous venons d'entendre. Maintenant, c'est pas vous qui nous l'avez fait entendre, c'est moi qui ai choisi de vous faire entendre. Donc, il y en a un qui dit du métal qui flirte avec des zombies,
oui.
Du drôlissime, parce que c'est vraiment quelque chose qu'il faut aussi voir, en plus de l'écouter sur la vidéo par YouTube ou ailleurs.
Oui, oui.
Quelle qualité. Un autre encore, beau boulot Magoyong.
Ouais.
Un autre encore, excellent, amusant, rythmé, dynamique.
Oui.
Que ça fait du bien à entendre, ajoute encore un autre. Bravo, continuez dans ce style qui se démarque. Encore 2 avis. J'adore le mec qui fait la deuxième voix, c'est le pianiste.
C'est Léna, Arnaud.
Vous avez parlé de lui, Arnaud, oui, encore un invité potentiel. Et puis il y a une auditrice qui conclut, et je vais prendre ça comme conclusion. Non seulement un talent exceptionnel, mais en plus La bassiste est super.
Oh.
Cette bassiste, vous l'aurez compris, auditrice, auditeur, c'est Léna, c'est Léna Thor qui était avec nous en ce jour du 6 novembre 2025. Bon, Léna, l'heure tourne, le temps passe. Nous avons eu la chance de vous recevoir, auditrice, auditeur, nous avons eu la chance de recevoir une artiste exceptionnelle, je pèse mes mots, une musicienne de talent et une violoncelliste de haute qualité, Léna Thor, elle est super. Et avec Léna, grâce à Léna, nous avons pu encore une fois vérifier que la musique ne connaît pas de frontières, ni de style, ni de genre, ni d'époque, dès lors qu'on l'interprète, qu'on la respire, qu'on la vit. Alors merci beaucoup Léna, bravo Léna Thor de nous avoir prouver que c'était, une fois encore, possible. Léna, on peut récapituler la liste des ensembles avec lesquels vous jouez ?
Oui, si vous voulez.
Méga Young, l'Orchestre des Champs-Élysées, et puis tous ceux qu'on oublierait. En tout cas, on va saluer tous vos collègues et leur dire qu'ils ont de la chance de jouer avec vous et que vous avez de la chance de jouer avec
eux. Oui, surtout
j'ai
ça.
J'ai eu bon nez de guetter le moment où vous alliez sortir de l'abbaye aux Dames de Saintes après avoir donné le concert auquel j'avais le privilège d'assister, celui proposé par l'Orchestre des Champs-Élysées sous la direction de Philippe Herweg, chef d'orchestre avec lequel j'ai eu la chance de travailler, mais c'était dans une autre vie. Léna, vous n'étiez absolument pas née. Donnez-nous vos notes, c'est sur RDC. Allez, c'est la fin. C'est la fin, Léna. Il faut tout, ni de meilleures choses qui ne s'arrêtent, qui ne connaissent une fin. Soyez sûr, en tout cas, je vous l'ai dit à plusieurs reprises dans la matinée, que vous serez la bienvenue pour, dans quelques temps, nous parler à nouveau de votre chemin, seul ou avec des collègues, des amis, avec Julien, pourquoi pas. Alors, au plaisir de vous accueillir. Aujourd'hui, dans la continuité des précédentes invités et de cette émission Donnez-nous vos notes, vous avez magnifiquement donné vos notes, magnifiquement offert vos notes avec les anecdotes qui ont accompagné votre vécu. Vous avez dévoilé un parcours original de très haute qualité. Nul doute que les auditrices et les auditeurs aient apprécié. Auditrices, auditeurs, dès que vous aurez l'occasion d'entendre, d'écouter, de voir Léna sur scène, allez-y, foncez, vous ne regretterez absolument pas. Merci de votre écoute, merci de votre fidélité, et merci Jean-Marc pour ton aide à la meilleure écoute des auditrices, auditeurs et à l'animateur que je suis. Auditrices, auditeurs, au revoir, à la prochaine. À la prochaine, c'est le 27 novembre. Même lieu, même heure, nous recevrons une autre artiste, une autre musicienne. Marielle Agosto nous fera le plaisir de sa présence. Autre parcours, autre histoire. Toujours la même passion, celle de la musique, du partage, de la rencontre, de l'échange. Léna, donnez-nous encore vos notes. Je le répète, offrez-nous vos notes. On n'en aura jamais assez. Et ce n'est pas une tempête, même si elle s'appelle Benjamin, qui nous empêchera de les entendre. Au revoir. Bon retour chez vous, au plaisir. Jean-Marc, merci, au revoir. Tu peux envoyer le générique parce que tu sais, donnez-nous vos notes sur les ondes de RDC 93.4 et 92.5. Pour aujourd'hui, c'est fini. Donnez-nous vos notes, c'est fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup à l'invité d'avoir accepté de nous donner ses notes. Merci à l'invité d'être venu nous donner ses notes sur les ondes de RDC, Radio Diffusion Charentaise, 93.4, 92.5. C'était « Donnez-nous vos notes », une note, des notes. Donnez-nous des notes, des bonnes notes. Donnez-nous des bonnes notes, rien que des bonnes notes. Donnez-nous vos notes. Passeurs et passeuses de rêves, donnez-nous vos notes. Passeuses et passeurs d'émotions, donnez-nous vos notes. Musiciens, musiciennes, magicien des sons, magicienne des sons, magicien des mots, donnez-nous vos notes. Chanteur ou chanteuse, instrumentiste, en solo comme en groupe, donnez-nous vos notes. Donnez-nous vos notes, c'est fini. C'est fini pour aujourd'hui seulement. Chers auditeurs, chères auditrices, nous aurons bientôt le plaisir de recevoir un nouvel invité ou une nouvelle invitée, et pourquoi pas un groupe d'invités. Alors, à vous toutes, à vous tous, je donne rendez-vous pour la prochaine émission de Donnez-nous vos notes sur les ondes de RDC, Radio Diffusion Charentaise, 93.4, 92.5. Qui voudra bien nous donner ses notes ? Merci à Jean-Marc pour la technique apportée, assurance de qualité tout au long de l'émission, et surtout, merci à vous, auditrices et auditeurs, de Donnez-nous vos notes. À bientôt, pour moi ce sera encore une très grande joie. Alors oui, à bientôt pour une prochaine émission de la série Donnez-nous vos notes. Voilà, c'est la fin.